Entre paroles et musique sur RCF Isère.
Maxime Barral-Baron.
Et Vanessa Curton.
Fabrice Vigne, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler d'écriture autour de votre dernier roman. Mais nos auditeurs noteront sans doute que vous êtes déjà venu sur le plateau d'Entre Paroles et Musique. C'était pour nous faire découvrir votre maison d'édition, Le Fond du Tiroir, que vous avez créé en 2008. Mais Le Fond du Tiroir a une actualité, une nouveauté, un nouveau bébé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, Le Fond du Tiroir vient de rééditer un livre qui était initialement paru en 2006 aux éditions Castel, qui n'existe plus, donc ce livre n'était plus disponible et ça me faisait beaucoup de peine parce que j'adore ce livre. Il s'appelle La Mèche, il a été illustré par Philippe Coudray. Et donc Le Fond du Tiroir le ressort avec une couverture toute neuve, un nouveau dessin de Philippe. Voilà, il est sorti en septembre.
Et parallèlement vient de paraître votre dernier roman aux éditions Thierry Magnier. Il s'agit de Jean II le Bon, qui fait suite à Jean Ier le Posthume, paru lui en 2006. Alors c'est l'histoire d'un groupe de copains, Stan, Elsa et Arthur. Qui sont-ils? Quel âge ont-ils? Quelle est leur vie?
Oui, ce sont les trois mêmes personnages qu'on retrouve dans ces deux romans, dans Jean Ier le Posthume et dans Jean II le Bon. Et dans le premier, ce sont des enfants. Et dans le deuxième, ce sont des adolescents. Il y a 4, 5 ans entre les deux, qui correspond à la durée d'intervalle pour moi, de l'intervalle d'écriture. Moi, j'ai pas mal changé en ces 4 ou 5 ans. Et aussi, ce qui n'a pas changé, c'est qu'effectivement, ce sont des livres à propos des livres. Ce sont des livres sur l'écriture. Ces trois personnages essayent d'écrire, veulent écrire un roman. Dans le premier, ce roman s'appelle Jean Ier le Posthume, et dans le deuxième, ils remettent ça, et le roman qu'ils veulent écrire s'appelle cette fois Jean II le Bon. Mes trois personnages sont en fait trois métaphores de trois conceptions de la littérature. Ce ne sont pas des romans très réalistes, ce sont des sitcoms intellectuels, si j'ose dire, parce que ce sont des comédies. J'espère que c'est un livre qui fait rire, mais intellectuel parce que c'est plus truffé de références, et puis parce que il y a une mise en abîme du livre dans le livre, et donc je parle des raisons pour lesquelles on écrit des livres et des conceptions qu'on a de la littérature. Donc Elsa, qui est la seule fille des trois, donc qui a une personnalité bien trempée pour ne pas se faire marcher sur les pieds par les deux garçons. Elle a une conception de la littérature très engagée. Si elle écrivait des livres, si elle en écrit quand elle est adulte, ce sera soit de l'autofiction, soit des documentaires très engagés. Moi, je l'imagine bien le point levé, Elsa. Elle veut changer le monde parce que le monde est injuste. Et s'il y a des livres à écrire, c'est là-dessus qu'il faut écrire pour changer la société. Stan, c'est tout le contraire. Il dit à quoi bon faire des livres sur le monde, on est déjà dedans. Donc il a une conception des romans qui est de pure imagination. Lui, il veut écrire des histoires de fantômes, des histoires de sorciers, des histoires fantastiques. Il écrirait de la fantaisie, comme on dit aujourd'hui. Et puis entre les deux, il y a ce personnage d'Arthur qui est peut-être celui des trois qui me ressemble le plus, parce que c'est celui qui a le moins d'a priori, de conviction. Lui, il écrit, et puis il saura pourquoi il a écrit, et il saura ce qu'il a écrit quand il aura terminé.
Et pourquoi avoir choisi le thème des rois, Jean Ier le Posthume, Jean II le Bon? Pourquoi eux?
Par hasard, le hasard a un rôle très important dans ces deux livres, c'est le hasard de l'inspiration. Ils veulent dans les deux cas écrire un roman à propos d'un roi de France. Ils prennent comme sujet dans le premier le roi le plus court du monde, enfin le roi le plus court de France, qui s'appelle donc Jean Ier le Posthume. Ils regardent dans un livre d'histoire la liste des rois de France et ils choisissent, en se disant que ça fera un sujet pas trop difficile, pas trop compliqué pour eux, le roi qui a vécu le moins longtemps en France. Et il se trouve, c'est assez peu connu, c'est une toute petite petite page dans l'histoire de France, que Jean Ier le Posthume n'a vécu que 5 jours. Il s'appelle le Posthume parce que quand il est né, son père était déjà mort, donc à sa naissance, il était déjà roi, mais il n'a duré que 5 jours. Donc un roi de 5 jours, c'est une histoire très étonnante. Il croit que ce sera une histoire facile à raconter, mais au contraire, non, c'est difficile, parce que pourquoi est-ce qu'il était roi ? Parce que son père l'était. Donc il se pose des questions sur l'hérédité de la fonction, il se pose des questions sur ce qu'ils doivent à leurs propres parents. Et puis dans le deuxième volet, dans Jean de Lebon, ils ont grandi, ils sont ados, donc ça change pas mal de choses entre eux, puisque entre les deux, il y a eu le mur de la puberté qu'ils ont franchi allègrement, donc qui change la règle du jeu entre les filles et les garçons, mais écrire les titille toujours, et donc cette fois, ils se penchent, toujours par hasard, si j'ose dire, en filant la plaisanterie, puisqu'on a fait Jean Ier, la suite forcément devrait s'appeler Jean II, donc ils se penchent sur le cas de Jean de Lebon. C'est une génération après, ça c'est au XIVe siècle, c'est en plein pendant la guerre de Cent Ans contre les Anglais, et ce Jean-là a eu un destin guerrier. Il s'est fait capturer à la guerre, à Bouvines, il a fini ses jours dans une geôle en Angleterre. Et donc cette fois, ce qui va faire réfléchir mes trois apprentis écrivains, c'est sur le choix que l'on fait de sa propre vie. Autant le premier était donc sur l'hérédité et sur, si j'ose dire, l'implacabilité des déterminismes sociaux. On est roi parce que nos parents sont rois. Et le deuxième est sur le libre arbitre, sur la vie qu'on s'invente soi-même.
Et d'ailleurs, il y a la question de l'orientation dans ce livre Jean de Lebon, qui est parallèle à l'écriture de leur livre, du livre d'Arthur. L'orientation qui est vue comme une forme d'injustice. En tout cas, il y a une déception, une révolte entre ce qui est proposé et ce dont ils rêvent.
Oui, ils sont troisième, et moi, c'est quelque chose qui me frappe énormément. On demande de plus en plus tôt aux adolescents d'avoir une idée de leur... De leur vie professionnelle. Il faut qu'ils aient un projet professionnel quand ils ont en troisième, donc c'est l'orientation, il faut qu'ils fassent un stage en entreprise, etc. Et donc tout ceci, bien sûr, qui fait partie de leur vie quotidienne, parasite l'écriture de leur roman, comme moi ou comme n'importe qui. On est en train d'écrire un roman, on essaye d'écrire un livre, mais on n'est pas dans une tour d'ivoire, on vit aussi avec ce qui nous entoure, donc avec nos préoccupations quotidiennes.
Je me tenais depuis tout petit dans la cour, dans mon lit. Je restais perdu dans ta fièvre, mon rêve. Puis à la vie, dis, on va où ? Un ruban jaune, un beau diplôme, un avenir en panoplie. Mon rêve dormait dans ma guitare, pris dans les cordes jusqu'à ce soir. Et là, je sors ma guitare. Allez, viens, on danse ce soir. Un rêve d'enfant a de la mémoire. Je suis juste un peu en retard. Je n'ai appris à me connaître qu'en tournant mille et un détours. Je regardais pas par la fenêtre. La peur du vide m'a joué des tours. Aujourd'hui, dis, on va où ? Ici, je viens à toi. Mon rêve, tout, 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 tout. J'ai failli être un homme d'affaires. J'ai failli faire, j'ai défailli. Gagner ma vie à me défaire, ça coûte un rêve. Dis, on va où ? La bourse ou la vie ? allez viens, il n'est pas trop tard. Je n'ai appris à me connaître qu'en tournant mille et un détours. Je regardais pas par la fenêtre, la peur du vide m'a joué des tours. Aujourd'hui, dis on va où? À toi. Tu m'apprends à me connaître, c'est ici que je sens l'amour. Je vois ma vie par ta fenêtre et l'horizon d'un nouveau jour. Aujourd'hui, je sais où on va. Ici, je viens à toi. Je viens à toi.
Deuxième partie de notre entretien Fabrice Vigne, nous nous rencontrons autour de votre dernier roman, il s'agit de Jean de Le Bon, paru aux éditions Thierry Magnier cette année, il y a même un mois tout juste. Ce roman fait suite à Jean Ier le Posthume. Fabrice Vigne, pourquoi une suite ?
Le Jean Ier le Posthume posait la question « à quoi bon écrire un livre ?» Donc il y avait de quoi faire. Et puis évidemment, Jean de Le Bon pose comme question en filigrane, à quoi bon écrire une suite ? Parce que quand on écrit une suite, on s'expose aux critiques aussi. S'il écrit la suite, c'est qu'il est à court d'inspiration, il est fini, il refait quelque chose qui a déjà marché. Alors voilà, on écrit une suite parce que parce qu'on est attaché à ces personnages. Moi, c'était mon cas. Et puis surtout, je voulais les voir grandir, faire la même chose en faisant quelque chose d'autre. C'est ça le principe d'une suite, c'est là que ça devient intéressant. Le sous-titre de Jean Ier le Posthume, c'était roman historique. Jean Ier le Posthume, roman historique. Et là, le sous-titre, c'est séquelles. Jean de Le Bon, séquelles. Je tenais à ce sous-titre, même s'il est très ambigu, puisque l'acception du mot séquelles est la plus connue, c'est l'acception médicale. C'est ce qui reste de nos maladies passées. Ce qu'on en garde, mais surtout aujourd'hui dans le vocabulaire du cinéma américain, dans le vocabulaire d'Hollywood, sequel, c'est une suite. Et ce vocabulaire-là, il tend à devenir la norme de la narration, la norme de l'industrie du divertissement, comme ils disent. Donc ce livre, Jean de Le Bon, est à la fois un sequel, oui bien sûr c'est la suite, mais c'est aussi une séquelle, puisque l'une des idées qu'il y a dans le livre, c'est qu'on écrit parce qu'on a survécu, et ceux qui racontent, ce sont ceux qui sont encore là. Et donc on écrit avec nos séquelles. Pour moi, ce livre, c'est ma séquelle.
À travers Arthur, Stan et Elsa, il me semble que Jean de Le Bon parle aussi de cette question. Pourquoi est-ce qu'on écrit ? Quel sens ça a ? Est-ce qu'on peut y répondre ?
Pourquoi est-ce qu'on écrit ? Alors, c'est une très bonne question. Et du coup, comme souvent dans les bonnes questions, la réponse est peut-être moins intéressante que la question. Ou en tout cas, il faut la trouver soi-même. Mais c'est vrai qu'une partie de cette réponse est révélée à la fin du livre. Est-ce que je peux la révéler au micro ?
Oh. Oui, allons-y, Fabrice Vigne.
Oui, alors je vais révéler un secret de Polichinelle. On écrit pour être aimé. Voilà une phrase qui apparaît en toutes lettres dans ce livre, mais il faut aller au bout d'un cheminement pour arriver à cette révélation. Oui, on écrit pour être aimé, parce qu'on écrit pour rentrer à nouveau en contact avec les autres. Et ces trois adolescents, ils ont les préoccupations de leur âge, c'est-à-dire on les enquiquine avec une conseillère d'orientation, et ils ont des préoccupations créatrices. Ils veulent accomplir quelque chose de beau, un roman, et puis par ailleurs un film pour Stan, et de la musique pour Elsa. Mais ils veulent, comme tout le monde, être aimés.
Ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que cette réponse, quand on a lu le livre, on le sait, c'est Elsa qui donne cette réponse, c'est pas Arthur. Pourquoi ?
parce que Arthur est beaucoup moins capable qu'elle de verbaliser les choses. C'est peut-être vrai, d'une manière générale, que les filles sont plus capables que les garçons de verbaliser. Ils sont plus capables de, elles sont plus capables de mettre les points sur les i, en tout cas dans mon histoire. Mais lui, il le reçoit, il l'entend, il le comprend très bien.
Comme dans Jean 1er le posthume, dans Jean 2 le bon, le rêve cadre le texte. Pourquoi ? Quel sens ça a, ça ?
Je suis très très attentif aux rêves. J'adore ça, les rêves. Le récit de rêve est un genre littéraire à part entière. Il y a plein de grands écrivains qui ont écrit des recueils de rêves, Pérec ou Michel Butor, il y en a plein d'autres. Moi-même, j'ai cédé à ce genre-là. J'ai publié un recueil de mes rêves qui s'appelle L'échoppe en ténébré, qui est paru au fond du tiroir. Et Jean Ier le posthume et Jean de Le Bon commencent tous les deux par un récit de rêve, un rêve qui survient à Arthur, mais qui en réalité m'est survenu à moi, un rêve que je faisais quand j'étais enfant pour Jean Ier le posthume et un rêve que j'ai fait quand j'étais adolescent pour Jean de Le Bon. Parce que vu que ce sont des livres qui mettent en scène et qui mettent en fiction le processus de création, je trouvais ça à la fois pertinent et drôle de montrer dès la première page, en somme, une création spontanée, alors qu'il se torture l'esprit pour savoir comment est-ce qu'on construit une histoire. Et ben, en réalité, on écrit des histoires dans sa tête toutes les nuits. L'activité onirique ressemble beaucoup à la création de fiction, sauf qu'on ne fait pas exprès. C'est d'ailleurs ça qui rend intéressant, c'est de la création spontanée, c'est de la poésie sans la moindre affectation. Mais dans le principe, c'est un peu la même chose, parce que un rêve comme un roman, on utilise des choses qui existent pour de vrai, et on les mélange pour faire une histoire qui n'existe pas.
Vous parlez également dans Jean de Le Bon du caractère obsessionnel de l'écriture. Est-ce que c'est une sensation que vous ressentez, vous, en tant qu'auteur, Fabrice Vigne ?
Ah oui, oui, absolument. Si je parlais tout à l'heure du hasard, c'est parce que je crois que là, quand on commence à écrire, il y a une part de hasard, il y a une idée ou une émotion qui nous arrive dans un flash et qu'on veut coucher sur le papier. Mais une fois qu'on a commencé, une fois qu'on a fait le premier pas, ça devient obsessionnel parce qu'on se rend compte que cette idée-là, une fois qu'elle est sur le papier, une fois qu'elle est en noir et blanc et qu'elle nous regarde, autant qu'on la regarde, elle va en entraîner une autre. Et une idée va entraîner une émotion, et une émotion va entraîner une idée, et le texte va gonfler comme une boule de neige, et c'est en ça qui devient obsessionnel, c'est-à-dire que tout nous ramène à lui. Tout ce qu'on peut éprouver par ailleurs va nous rappeler la petite lumière qu'on a allumée et qu'on va protéger comme ça, comme des mains qu'on met autour d'une flamme d'une bougie pour pas qu'elle s'éteigne. On y pense en permanence et on fait grossir le texte. Et moi, il y a certains de mes textes que je retravaille depuis des années. Et quand on parlait de La Mèche tout à l'heure, qui a connu deux éditions, une en 2006 et une en 2010, j'ai entièrement retravaillé le texte, j'ai pas laissé une phrase tranquille. Quand j'ai l'occasion de reprendre un texte, oui, je le retravaille. C'est de la maniaquerie peut-être, mais il y a toujours quelque chose à amender, sauf quand le livre est imprimé. Alors on peut plus rien faire là. Donc j'évite de le lire à ce moment-là.
Eh bien, merci Fabrice Vigne pour cet entretien. On rappelle que Jean de Le Bon est paru cette année aux éditions Thierry Magnier, qu'elles sont dans toutes les bonnes librairies, et que La Mèche, publiée au fond du tiroir. Par contre, où est-ce qu'on peut se la procurer, La Mèche ?
Oui, c'est la première, et je suppose la dernière fois que ça m'arrive. J'ai publié deux livres la même semaine, Jean de Le Bon chez Thierry Magnier, et La Mèche chez moi, si j'ose dire, au fond du tiroir. Le fond du tiroir est une micro-édition associative qui n'a pas de diffuseur, donc je laisse en dépôt certains exemplaires de La Mèche chez certains libraires, je peux les citer, l'Université, les Modernes et La Dérive. Puis on peut aussi se les procurer par correspondance en allant sur mon blog, donc www.fonddutiroir avec 2D s'il vous plaît, fonddutiroir.com/blog, et là vous trouverez toutes sortes de choses très intéressantes et entre autres le bon de commande.
Et on pourra également retrouver les bons de commande des autres livres du fond du tiroir. Merci beaucoup Fabrice Vigne.
Merci à vous, au revoir.
Entre les lilas blancs et le figuier, entre les rayons d'ambre sur la jeune mariée, entre les hommes tendres et les fous alliés, entre les mères qui frappent et les folles de mai, il y a ces morceaux de moi, celles qu'on cache, qu'on brûle, qu'on jette à bas, tous ces morceaux de moi, celles qu'on met à mort sans appel. J'ai plus de pleurs, juste la peur. J'ai même pas d'âme, juste des mots. J'ai juste mal de leurs mots. J'ai juste mal pour elles. Qui leur coupe les ailes? Qui coupe les ailes? Elles ne sont plus que des ombres, elles de sombres pastels. Celles qui scient leurs ailes charnelles, celles qui se cisèlent des cages en dentelle. Sans appel. Sans appel, sans appel. J'ai plus de cesse, plus de sagesse, juste la rage. J'ai plus de mots, des loups du mal qui est le sceau qui lui fait mal à elle.
Ainsi s'achève Entre paroles et musique pour aujourd'hui. Vous venez d'entendre une chanson de Marie-Florence Gros. Enfin, ça, c'est son nom d'auteur et nous la recevrons dans cette émission la semaine prochaine. Son nom de scène, c'est Mali Rochevive. Et puis, auparavant, vous avez pu entendre aussi une chanson de Donoré qui, lui, sera présent le 21 octobre à la Maison de la Musique de Mélan. Petites annonces pour la fin de la semaine. Des rencontres d'auteurs sont au programme de la librairie de Sitre. Deux rendez-vous. Le premier avec les éditions Voix d'encre, dont nous avons accueilli récemment Alain Blanc, qui en est le président. Pour fêter leurs 20 ans, ces éditions ont pu s'exposer à la Bibliothèque d'information et documentation de Grenoble et sortir un livre anthologique qui s'intitule « Écrire et peindre au-dessus de la nuit et des mots ». Ça se passe à la librairie de Sitre et puis un peu hors Isère, du côté de Vénissieux. C'est la 15e édition du festival Paroles Ambulantes qui se déroule jusqu'à dimanche sur le thème Un monde à l'envers. Paroles poétiques, musiciens, comédiens qui déambulent dans les rues de Vénissieux entre Lyon, Villeurbanne et Grigny. Parmi les auteurs invités, Ahmed Caloise qui parraine cette 15e édition, Isabelle Pinson, Maya Ombrasic et Frédéric Forté. Pour plus d'informations, un site internet, festival Parole Ambulante, espace pandora.free.fr. Bonne semaine à vous et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Entre Paroles et Musique.